Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 135.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Ambition au féminin. Et aujourd'hui, on continue sur notre série à propos du coaching, à propos du business coaching, avec cette deuxième partie de trois. Hein? Si vous n'avez pas écouté la première partie, vous pouvez toujours aller chercher, c'est l'épisode... Si je ne m'abuse, 135, oui, donc pas l'épisode précédent, celui d'avant. Et il y aura une troisième partie aussi à cette conversation qui va être publiée très, très bientôt. Donc, aujourd'hui, dans cette partie-là, je vous parle de comment initier un changement durable grâce au coaching. Et le mot « durable » est un mot clé ici parce que, bien souvent, je pense qu'on pense à du coaching et on n'a pas une idée de la temporalité que les changements vont prendre. Puis quand je dis temporalité, c'est pas nécessairement qu'ils vont arriver plus vite ou plus lentement, mais vraiment de leur durée de vie, dans le sens de dire, OK, ben si je travaille avec un coach puis qu'il me montre comment faire X, Y, Z, peut-être que je vais être capable de le faire maintenant, genre comme, ou dans 10 minutes, ou peu importe, mais dans un an, dans 2 ans, cette connaissance va pas m'avoir permis de faire croître mon entreprise ou de faire grandir mes compétences ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça le focus dans ce live que j'avais donné sur Instagram et qui ne sera plus disponible au moment où vous écoutez ceci, là. Donc, ça va vivre sur le podcast. Et puis, ben, comme d'habitude, ben, je vous invite à réfléchir, vraiment à vous poser et à vous poser ces questions-là aussi. Comment vous interagissez avec vos coachs? Comment vous interagissez avec vos clients si vous êtes vous-même coach? Et si vous avez cette vision-là aussi de ce que vous êtes en train de mettre en place dans cette relation collaborative que vous entretenez avec votre coach, dans la relation coach-client. Alors voilà, je sens plus faire de blabla parce qu'il y a quand même beaucoup de stock dans la conversation d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ce live.
Hey, hey, hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de ces lives. Et si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'épisode, le module d'hier, vous pouvez toujours aller sur mon profil pour aller regarder, pour aller l'écouter, dans le fond. C'était vraiment intéressant, selon moi, à vous de me le dire. On a parlé notamment des problématiques qu'il y a avec le coaching business en ce moment, hein. Des problématiques comme le fait de baser beaucoup de la théorie ou des pratiques de coaching sur des modèles préexistants, sur des chambres à écho un peu, hein, la création de gourous puis tout ça. Problème numéro 2 qui est beaucoup de créer des programmes, créer des coachings qui sont axés dans la conscience du manque des clients, de cette idée qu'il faut toujours se fixer vers quelque chose de mieux, une optimalité, une perfection dans le fond qui est valorisée par l'esprit ambiant et naturellement le problème aussi de simplement axer le coaching sur une des trois savoirs, soit les savoir-être ou les savoir-faire. Bien souvent, ce qu'on va voir dans les modalités de coaching, c'est beaucoup, beaucoup de savoir-faire, beaucoup, beaucoup aussi de tenage de main, tenir la main, prise de main. Et c'est rarement holistique la façon dont c'est approché parce que justement, c'est difficile d'être holistique dans un contexte justement où on se base simplement sur les résultats que soit on a eu uniquement ou qu'on a suivi d'un mentor qui nous a dit qu'il fallait faire exactement, donc on perpétue encore les modèles préexistants. Donc c'est sûr que c'est difficile d'être dans une optique holistique quand on coach sous cette modalité-là. L'autre chose que je pense qui est importante de ce qu'on a discuté dans le dernier live, c'est cette fameuse idée de offrir des résultats ou offrir des solutions aujourd'hui qui vont nous empêcher de trouver des solutions demain. Et ça, c'est un gros problème, surtout dans les industries qui sont très rapides et très changeantes, comme les industries du web. Hein? Puis moi, ça fait 7 ans que je travaille dans le web, que mon entreprise existe ici sur le web. Et disons que dans 7 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de tactiques qui ont changé, la nuance que les utilisateurs, que les clients ont besoin pour embarquer dans certaines choses ou pour naviguer ou l'expérience qu'ils recherchent a beaucoup changé aussi. Donc, le fait de se baser sur des modèles préexistants et qui créent des chambres à écho, mais ça peut créer une stagnation qui est très difficile c'est très difficile de s'en sortir quand on n'a pas développé, dans le fond, les aptitudes qui nous permettent de faire du vrai problem solving à travers ça. Donc, c'est ça les problématiques que j'avais identifiées en termes de business coaching. On avait fini la conversation aussi avec une réflexion autour de ben, qu'est-ce que ça prend pour s'appeler business coach? Est-ce qu'on a besoin d'une certification? Est-ce qu'on a besoin d'un certain nombre d'heures? Est-ce qu'on a besoin d'avoir servi un X nombre de clients ou d'avoir reçu tel je sais pas moi, résultats ou témoignages, bref, question ouverte parce que naturellement, l'industrie du coaching est une industrie non régularisée et selon moi, puis ça pourrait avoir lieu pour une autre conversation, c'est bien, c'est une bonne chose, mais encore une fois, ça vient avec des désavantages. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais plus spécifiquement discuter avec vous, c'était comment initier un changement durable via le coaching, hein, puis comme d'habitude, dans n'importe quoi que je fais, que ce soit mes Zoom, mes masterclass ou les lives ici, vous êtes toujours invités à offrir vos perspectives. Ça me permet aussi de réfléchir, donc, tu sais, utilisez le chat. Et puis, ben, à la fin, si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose à dire, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation pour venir sur le live aussi. Ça me ferait plaisir de jaser avec vous. Donc, maintenant que l'invitation est envoyée, commençons avec ce que j'ai préparé, puis après ça, on voit où est-ce que ça nous mène, OK? Donc, comment initier un changement durable via le coaching? Tu sais, je pense que là, vous comprenez un peu mon point que je trouve que beaucoup de ce qu'on fait en ce moment est un des pièges dans lesquels c'est vraiment difficile de pas tomber en tant que coach et entrepreneur, hein, parce qu'en tant que coach, on est bien souvent à notre compte et puis on essaye aussi, bon, tu sais, il faut faire fonctionner la business jusqu'à un certain point, donc on est dans la dynamique d'un marché ouvert, il y a beaucoup de solutions qui sont offertes qui sont très axées court terme. Hein? Puis c'est ça que je parlais avec les savoir-faire versus les savoir-être. Le court terme, c'est de dire, ben, je suis une business coach et puis avec moi, avec un accompagnement sur 3 mois ou whatever, tu vas faire ton premier 10 000 $. Okay? Donc, je vais faire tout en mon pouvoir pour que tu arrives là parce que ton résultat, après ça, se traduit sur ma valeur et ma valorisation comme coach. Et c'est sûr que quand on base nos transformations sur des résultats comme ça, la problématique, c'est qu'on reste très proche du problème lui-même et qu'on est en train d'offrir une solution que demain, on n'est pas sûr qu'elle va pouvoir générer le même type de résultat à cause de ce qu'on a dit, notamment, bon, la nature changeante du web, la nature changeante aussi des entreprises, puis le fait que si on valorise pas ou qu'on n'aide pas nos clients à s'autonomiser ou à devenir plus agiles, ben il se passe quelque chose comme la pandémie, il se passe quelque chose comme un ralentissement économique, il se passe quelque chose comme une nouvelle régulation dans le domaine, et puis là, ben le business model fonctionne plus, les tactiques fonctionnent plus, on n'est plus capable de pivoter parce que on a cristallisé certaines méthodes, certains systèmes dans quelque chose qui était axé simplement sur les résultats immédiats. Donc, il y a une problématique ici qui vient bien souvent aussi de comment on a été élevé, hein, comment on a été éduqué à travers le système scolaire et professionnel dans lequel on a évolué jusqu'à aujourd'hui, qui met énormément l'accent sur les savoirs et les savoir-faire, hein, au lieu des savoir-être, qui est considéré comme le propre de l'éducation familiale, de l'éducation à la maison. Et oui, il y a une certaine, il y a une certaine vérité là-dedans, mais c'est pas n'importe qui va avoir une éducation entrepreneuriale, parce que c'est pas tout le monde. Et tu sais, jusqu'à très récemment, il y avait pas tant de monde que ça qui choisissait l'entrepreneuriat comme premier choix de carrière, mettons, ok? Donc, les informations et les compétences qui sont facilement quantifiables, hein, j'ai fait 10 000 $ d'ici 3 mois, nous ont mis dans ce paradigme-là où la performance est évaluée selon des barèmes très court terme. Et ce que ça fait, c'est qu'on est toujours en train de revalider nos acquis, hein, soit à travers des certifications, soit à travers le fait qu'on cherche d'autres coachs pour nous dire qu'on a bien fait quelque chose, parce qu'on n'est pas capable de juger par nous-mêmes si ce qu'on a mis en place va nous permettre de perdurer dans la prochaine itération de l'environnement business dans lequel on va évoluer. Hein? Fait que tout ça, les certificats, les étoiles dorées, les types de validation, c'est ce que moi j'appelle le syndrome de la bonne élève. Et c'est pas de notre faute, mais nous, les femmes, hein, si vous êtes des femmes puis vous écoutez ça, il y a beaucoup de symptômes. Puis là, on n'en parlera pas ici, j'ai plusieurs publications sur mon compte, là, vous me direz si vous voulez les recevoir. Mais on a cette tendance à vouloir faire les choses bien. Et quand on parle de coaching, puis qu'on parle de coaching ou de changement durable, c'est là que ça devient un peu problématique, parce que si j'ai une certification là maintenant, si j'ai une étoile dorée là maintenant dans mon cahier, rien ne me confirme que je vais encore l'avoir demain. Je suis constamment en état de validation. Donc, qu'est-ce que ça crée dans le milieu ou dans la psyché entrepreneuriale, hein, celle de nos clients ou celle des clients qui viennent pour du coaching business? C'est que ça crée des entrepreneurs qui sont en burn-out, des gens qui savent pas prendre des décisions, donc un leadership déficient. Puis c'est pas pour critiquer personne, c'est pas pour juger, c'est juste que on n'a pas valorisé, surtout chez les femmes, des notions de leadership conscient, hein, des notions de leadership intègre. Et donc, on est tout le temps en train de chercher, ben, qui va me dire quoi faire et comment le faire. Ça crée aussi beaucoup de charge mentale, parce que vu qu'on est en train de se poser la question constamment si on a raison, si on va avoir notre étoile, si on va avoir notre 10 000 à la fin du mois, puis qu'on n'est pas capable de prendre ces décisions-là genre en amont, ben, crée une charge mentale élevée qui va mener à vouloir décharger, hein, donc déléguer, bien souvent de façon non stratégique. Et encore une fois, en tant que coach business, on va souvent rencontrer des personnes qui sont juste, ils en ont tellement sur leur assiette, qu'ils savent même pas où donner de la tête, ils savent même pas à qui déléguer ces choses-là, parce que les systèmes n'ont pas été conçus pour pouvoir supporter, un, la croissance, deux, les ambitions, ou trois, simplement, la réalité d'être une entrepreneur en démarrage dans une situation où il y a un ralentissement économique, une pandémie, etc. Ok. Puis l'autre chose aussi que ça crée, ben c'est le fameux FOMO, hein, fear of missing out, ou course à l'objet brillant qu'on pourrait appeler aussi, où on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose pour être capable de débloquer quelque chose. Hein. Puis ça, on l'entend souvent, c'est si seulement j'avais la clé. Puis là, ça fait qu'on a une industrie de coachs qui vendent des clés, hein, des clés magiques qui sont supposées débloquer des trésors magiques à quelque part, qui vont ensuite régler tous les problèmes de la personne. Bon, j'exagère, mais vous comprenez où on s'en va avec ça, c'est que il y a une conscience de vouloir aller toujours avoir l'impression qu'à l'extérieur de nous, il y a cette fameuse clé qui va débloquer les coffres du succès, les coffres de la reconnaissance et puis tout ça. Donc, même les coachs mindset ou ceux qui disent travailler sur le savoir-être, selon moi, ils passent parce que ce qui arrive dans la plupart de ces programmes-là, hein, puis je vous dis, ça fait 7 ans que je fais ça, puis ça fait 7 ans que moi aussi, genre, j'en ai consommé du contenu, j'en ai consommé des coachs, j'ai interagi avec des gens, j'ai observé parce que de ma posture de spécialiste en marketing, je devais analyser toutes ces choses-là. Mais tu sais, beaucoup des trucs de coach mindset, c'est de nous donner des modes d'emploi à suivre à la lettre, de nous donner des horaires à compléter, de faire ton journaling, prendre des bains, faire des affirmations positives, qui ultimement vont à l'opposé de ce que ça constitue réellement un changement de comportement. Hein, parce que quand on suit une checklist, c'est cool parce qu'on a la dopamine de dire genre j'ai fini ma checklist, sauf que le problème c'est est-ce qu'il y a vraiment un changement qui a été opéré outre que le fait de savoir que je suis capable de suivre une checklist. Puis c'est là que je remarque beaucoup que le savoir qui est mis de l'avant n'a pas été intégré. Hein, c'est des outils, c'est des trucs, c'est des méthodes, c'est tout ce qu'on veut les appeler, mais c'est pas des compétences qui ont été intégrées. Et ça, c'est une problématique quand on veut initier des changements durables chez nos clients, ce qui, selon moi, devrait être le propre de chacun des coachs, peu importe dans quelle industrie ils se positionnent. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un changement va être durable? Selon moi, c'est un point clé qui est la cohérence, hein? La cohérence du changement qui va mélanger un aspect rationnel et suprarationnel. Puis j'utilise le mot suprarationnel, mais en quelque part, c'est juste inconscient. Hein? Puis je vais en parler un petit peu, là, mais je sais que le mot inconscient, il peut faire peur. Suprarationnel, pour moi, ça veut juste dire qu'il y a d'autres niveaux d'intelligence qu'on a dans notre corps, dans notre individu, qui fait que on n'a pas nécessairement à passer par cette modalité de réflexion rationnelle qui, depuis les Lumières, dans le fond, a été hiérarchisée comme étant la meilleure forme de réfléchir et de prendre des décisions. On pourrait, genre, avoir une longue conversation là-dessus. J'ai souvent des longues conversations là-dessus avec mon conjoint, mais tout ce que je veux, genre, ici, c'était juste mentionner. Pour moi, il y a différents types d'intelligence, rationnelle, suprarationnelle, et quand on cherche de la cohérence, c'est important que ces deux aspects soient pris en compte. Donc, la cohérence, souvent, elle va être perçue comme une fonction du rationnel, hein, quelque chose que l'on va créer en solutionnant des problèmes. Puis là, je vous donne certains exemples, hein, solutionner un problème comme une image de marque, des processus de délégation, solutionner le problème de son modèle d'affaires, tu sais, des choses vraiment très terre-à-terre. Mais plus souvent qu'autrement, cette cohérence, elle va être ressentie, elle va être perçue par le corps. Hein? Puis le corps, c'est une de ces intelligences suprarationnelles. C'est une intelligence qui fonctionne à l'extérieur de ce qu'on est capable de raisonner, genre dans notre état conscient. Donc, ça peut être perçu au niveau, bon, de l'accordance avec nos valeurs. Ça peut être perçu comme une résonance avec la clientèle, dire comme « Ah, je me sens bien avec ce type de client-là ». Ça peut être perçu comme une aisance par rapport à ses prix, par exemple. C'est-à-dire comme, genre il y a un an, j'étais pas capable de dire ce prix-là sans que ça m'active à l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, je suis capable de le dire, puis même que c'est pas un big deal, tu sais. Donc, mon système nerveux a été régularisé à travers ce prix-là. Et ça démontre qu'il y a un certain travail de cohérence qui a été fait à l'intérieur de soi parce que c'est plus considéré comme une résistance. Parce que je pense qu'on peut opposer peut-être cohérence et résistance. Je me suis pas posé la question, mais j'ai l'impression que ça ferait du sens. Faudrait que j'y réfléchisse. Mais pour le moment, on dirait que j'ai envie de dire ça. Donc, cette cohérence-là, c'est quelque chose qui va être compris par la tête, le cœur et le corps. Puis ça a l'air super cheesy, comment je le dis comme ça, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir avec ça, là. C'est vraiment une cohérence plus psychosomatique. Et la raison pourquoi je pense que c'est important qu'on le note, c'est que, puis vous le savez, hein, plus il y a de recherches autour de notre historique de trauma, les traumas intergénérationnels, l'effet de la pression sociale sur notre santé mentale qui ensuite a des effets sur notre corps, tu sais, toutes ces choses-là sont interreliées. Et donc, genre, cette cohérence psychosomatique, il n'y aurait aucune raison pour qu'elle soit exclue de notre expérience entrepreneuriale. Beaucoup de traumas qu'on garde en nous, malgré nos années de thérapie, tu sais, même si... Parce que je trouve que, bon, la thérapie, c'est génial. Puis là, on parle pas de thérapie. Je pense que la thérapie, il y a le coaching, c'est des choses qui ont chacun leur valeur et qui peuvent travailler très bien ensemble. Mais là, ici, on parle vraiment beaucoup du... On va vraiment parler du coaching. Mais c'est sûr qu'il y a des modalités de coaching, des modalités de thérapie qui sont très axées dans le rationnel. Rationaliser notre problématique, rationaliser notre histoire. Mais si on la travaille pas au niveau somatique... Bien souvent, ben, on va ressasser les mêmes histoires encore et encore en ayant l'impression qu'il n'y a pas d'issue, hein, qu'on est juste, on est juste en train de se désensibiliser par rapport à notre propre histoire, mais ça ne veut pas dire qu'elle a plus d'intégrité en nous, qu'on est capable de l'intégrer davantage dans notre façon d'être ou d'évoluer. Donc, on veut pas nécessairement arriver dans un état de pure dissociation où est-ce qu'on dit toutes ces choses traumatiques me sont arrivées, mais là I move on, hein, genre il faut que je get over it. Tu sais, ça c'est pas un état de cohérence, ça c'est un état de dissociation. Donc certains symptômes vont se manifester seulement dans le corps parce que, hein, encore une fois, grâce à la culture du hustle, grâce au fait qu'on a hiérarchisé le rationnel et le suprarationnel, on est des pros de se gaslighter nous-mêmes, hein. On est des pros de nier nos propres expériences, puis de dire, ah, no big deal, genre, ah, oh, j'étais fatiguée, mais genre, whatever, j'étais capable de finir mon rapport. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Burnout, dépression, toutes ces choses-là. Puis, je pense qu'on a été vraiment encouragés à ça, et de plus en plus, ben, parce qu'on réalise que beaucoup des symptômes physiques qu'on vit sont intimement liés avec notre mal-être au travail, notre mal-être dans nos business, notre mal-être avec nos familles, ben là, on n'a plus le choix que de regarder ce travail-là d'une façon holistique, comme un tout. Et la cohérence psychosomatique va toujours agir vers le bénéfice long terme du système. Ça, je pense que c'est important parce que qu'est-ce que ça veut dire le bénéfice long terme du système? C'est que si, par exemple, j'ai un système organique, hein, mon corps est un système en soi avec des vaisseaux sanguins, avec un tu sais, mon corps va travailler, ou il va, parce qu'il cherche la cohérence et l'harmonisation, va travailler vers la stabilisation. Et ce que ça va faire, c'est que il s'en fout, lui, si ça veut dire que je dois faire une dépression parce que... Pour pouvoir ralentir puis me soigner, ou whatever, genre, pour, tu sais, comme un burn-out pour me donner le signal ou peu importe, parce que à quelque part, c'est comme, il y a eu des signaux qui ont été envoyés, puis là, soudainement, c'est comme, on n'est plus capable de prendre, on va essayer de maintenir le peu d'énergie qui nous reste en shutdown, ou en créant, genre, bon, ces symptômes-là. Puis je pense qu'il y avait, je me rappelle plus c'était qui m'avait dit ça, puis j'avais trouvé ça vraiment fort. En anglais, vous savez, le terme « depressed », ça s'écrit « D-E-P-R-E-S-S-E-D », mais là, elle m'avait dit « lis-le encore, et qu'est-ce que tu entends? » Puis quand on lit « depressed », hein, « je suis déprimée », en anglais, on entend « deep rest », donc « repos profond ». Et je trouvais ça intéressant pour mettre en lumière comment le corps a une logique, le corps a une intelligence, même si c'est pas la situation optimale dans notre système social-économique. Des fois, c'est la solution optimale dans notre système organique et somatique. Bon, donc, tout ça pour dire que... Il y a cette cohérence qui est recherchée, et quand on veut travailler dans un changement durable, on ne peut que travailler vers cette cohérence, et donc avec des systèmes holistiques. Et la cohérence, donc, elle va jouer ce rôle clé dans le changement durable parce qu'elle va fournir de la stabilité pour soutenir et maintenir les changements sur le long terme. Hein? Puis, tu sais, c'est ça que je trouve intéressant aussi de voir que hier, on parlait de changement, aujourd'hui, on parle de cohérence, et les deux ne sont pas des termes contradictoires, au contraire. La cohérence permet de créer comme l'espèce de mur ou le fond, la fondation pour ensuite pouvoir naviguer les changements. Hein? Parce que sans cohérence, les efforts de changement peuvent être sporadiques, inconstants, finalement insoutenables. C'est comme le ciment. C'est ça que je cherchais comme terme, là. Le ciment qui maintient les briques du changement ensemble. Hein, parce que le changement, il va arriver de plein de parties, de plein de situations à tout moment. Mais cette cohérence-là qu'on ressent au travers de notre histoire, au travers genre, notre vision, à travers qu'est-ce qu'on a mis en place comme entreprise, bien ensuite, c'est ça qui va maintenir la stabilité pendant genre les périodes de changement. Donc, ça nous fournit des bases solides, hein, un peu comme aussi... Si vous avez lu le livre de Simon Sinek sur le grand pourquoi, hein, ça fait partie de cette recherche de cohérence-là. Renforcer bon, des nouvelles habitudes parce qu'on sait dans quelle direction, donc toutes les théories autour de la motivation sont supportées par ce besoin de cohérence-là. Créer de la confiance, hein, confiance au fur et à mesure qu'on choisit notre intégrité et donc notre vision, et puis faciliter l'adaptation, hein, parce que c'est un cadre pour naviguer l'incertitude et la pression. Parce qu'une fois qu'on sait comment réactiver cette cohérence-là ou re-rentrer dans un état de cohérence, cohérence cardiaque, cohérence interne, on est capable après ça genre, d'augmenter la pression, d'augmenter les efforts jusqu'à un certain point, sachant qu'on sait reconnaître où sont nos limites. Donc, pour changer nos postures et nos comportements, c'est pas sorcier. Je pense que vous avez compris que s'adresser simplement au niveau rationnel conscient, selon moi, c'est pas assez, parce que le rationnel conscient est habitué au résistant, à la résistance créée par l'incohérence. C'est comme si lui, il veut juste forcer à travers les résistances en disant « Non, mais ça ferait beaucoup plus de sens si tu n'avais pas cette réaction » là qui se met dans le chemin de notre performance optimale selon les barèmes de notre système capitaliste dans lequel on est et ton 9 à 5 et les demandes familiales qui viennent du fait que ta famille aimerait ça que tu leur fasses... Bon, bref, vous comprenez le principe. Donc, le rationnel conscient, il est habitué aux résistances créées par ses incohérences, il est habitué aux histoires qui se racontent, aux chemins qui ont été créés et ce qu'il va faire le plus souvent, ça va être se gaslighter puis de dire comme, on va juste essayer de mettre ça en dessous du tapis, dans l'inconscient, et continuer à faire notre travail de tous les jours. Mais quand on met les choses en dessous du tapis, elles disparaissent pas, elles sont juste mises sous la surface. Donc, tout ce qui est croyances limitantes, dynamiques structurelles, hein, le fait genre de vivre dans une société patriarcale, le fait d'être dans des systèmes oppressifs, le fait d'avoir un passé traumatique ou des traumas intergénérationnels, tout ça s'est mis en dessous du tapis. On a l'impression qu'ils n'existent plus, mais au contraire, ils ont une incidence réelle sur la façon dont on navigue notre quotidien d'entrepreneur, dont on navigue nos business. Donc, ce que je trouve qui est presque essentiel dans un travail avec le changement, dans un travail au niveau de la business, au niveau genre de ce qu'on veut faire en termes de business holistique, de business durable aussi, c'est d'ouvrir ce dialogue avec l'inconscient parce que c'est ce qui va nous permettre d'outrepasser les habituations neuronales qui vont nous aider à faciliter le changement qu'on veut voir entre nous, hein, qui vont nous aider à mettre en place des systèmes pour croître nos entreprises, pour aller déléguer d'une façon intelligente, pour être beaucoup plus en accord avec nos ambitions, etc. Et le travail avec l'inconscient va nous aider à éliminer les incohérences ou du moins à les réharmoniser, hein, à dire comme, OK, je vais ouvrir le tapis, puis je vais aller nettoyer un petit peu en dessous, on va voir ce qui s'y cache, on va voir comment on peut réintégrer ces espaces-là, comment on peut trouver des places pour chaque objet, comment est-ce qu'on peut prendre des forces qu'on a développées à travers, bon, ces expériences traumatiques peut-être, bref, comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut transformer les incohérences en cohérences. Puis là, ben ce travail-là, ben ça passe notamment par la découverte de nos croyances limitantes, par l'alignement des actions avec les valeurs, par l'amélioration de la prise de décision d'une façon qui va être intègre et unshamed, hein, sans la honte, hein, de pas être motivé par la honte ou la possible honte qu'on pourrait ressentir, et la promotion de l'authenticité, et un terme que j'aime beaucoup plus que l'authenticité, c'est l'intégrité. Parce que en prenant conscience de qui on est, de ce qu'on valorise, de ce qu'on désire, on va pouvoir vivre et agir de manière intègre et donc complète. Donc, le travail avec l'inconscient va aider à identifier, à résoudre les conflits internes, aligner nos actions avec nos valeurs et prendre des décisions plus éclairées au niveau de trois grandes relations qu'on vit dans nos entreprises qui, selon moi, sont la relation à notre offre. Et là-dedans, ben, y a tout ce qui est relié à la valeur, à notre expertise, à la position qu'on se fait dans le monde, à notre marque qu'on veut laisser, la relation à nos clients, donc comment nourrir des relations saines et authentiques avec eux, parce que là aussi, il y a quelque chose, il y a beaucoup de trauma, il y a beaucoup genre de croyances qui se manifestent dans cette relation avec nos clients, qu'on le veuille ou non, que ce soit utile ou non, parce qu'on le fait de façon inconsciente. On ne sait pas qu'est-ce qu'on amène comme bagage bien souvent dans ces relations-là. Puis finalement, la troisième relation, celle qui fait le plus de sens aussi, c'est notre relation à nous-mêmes. Donc, la confiance qu'on a envers nous-mêmes, la valorisation qu'on a de ce qu'on apporte, notre intégrité par rapport à comment on veut show up, et les peurs aussi qui nous habitent et qui font que, de temps en temps, ou souvent, on va pas agir dans notre meilleur intérêt. Fait que ça, c'est les bases du coaching et qui sont facilitées par un travail avec l'inconscient. Donc, comme coach business, je pense qu'on doit être en mesure de travailler avec ces différentes modalités pour identifier les résistances, offrir des façons de créer de la cohérence psychosomatique autour de ces éléments fondateurs. Pour que éventuellement on en arrive avec des résultats qui sont durables, souverains, autonomes. Puis les techniques que moi je préfère pour travailler avec l'inconscient, les techniques que j'aime, ben tu sais, c'est tout ce qui est du travail somatique, hein, puis encore une fois, pas juste rationnel, autour de la régularisation du système nerveux, autour du plaisir, autour de la conscience du corps aussi dans l'expérience du quotidien, hein, de l'entrepreneur. Je travaille beaucoup avec l'hypnose, avec la consolidation de la mémoire pour voir est-ce qu'il y a des nouveaux chemins neuronaux qu'on veut prioriser, hein, qu'on veut intentionnellement habiter au lieu de continuer à être dans des modes réactifs qui sont pas nécessairement les plus utiles pour nos ambitions. Et les principes du coaching féministe, tu sais, les principes du coaching féministe que j'ai appris notamment de Cara Lowenthal, qui a une certification en coaching féministe, ben c'est des modalités qui sont pas tant développées, j'ai l'impression, dans beaucoup d'espaces de coaching, mais qui sont très très importants selon moi dans l'établissement de l'autonomie et de compétences clés pour la durabilité de nos clients. Puis je vous en nomme quelques-unes, mais tu sais, un des premiers principes, c'est que le coaching est facilitatif. Donc, c'est pas axé sur la résolution, c'est axé sur la croissance, sur la performance et la transformation, comme on a parlé hier dans notre appel. C'est en puissançant. Donc, on est en train de donner des outils et non de régler leurs problèmes, parce que c'est mieux de donner les outils, leur apprendre à travailler, utiliser leurs problèmes comme des laboratoires pour être capable ensuite qu'ils puissent adapter cette solution dans des situations qui vont être un peu différentes, qui vont ressembler à ça, mais qui vont éventuellement être autonomes dans cette dans tout ça. Parce que ce qu'on veut, c'est que nos clients y aient plus besoin de nous éventuellement. C'est qu'ils soient capables de passer à un mode autonome où ils vont générer leurs propres solutions, où ils vont être capables de naviguer à travers l'univers en changement avec confiance. C'est une expérience collaborative, hein? C'est mutuel, c'est intersectionnel, c'est non hiérarchique. C'est important, genre, qu'une relation de coaching soit non hiérarchique pour éviter les gourous, pour éviter le transfert dans une seule personne de la connaissance, du savoir, des bonnes réponses, de l'autorité. Donc, ces choses-là, ultimement, veulent mener à l'autonomisation des clients, hein, les rendre le plus autonomes possible, qui est, pour moi, encore une fois, l'ultime résultat d'un coaching, qu'il soit business ou non. Je m'en fous que ce soit juste business, je m'en fous que ce soit marketing, ultimement, le coaching doit mener à une meilleure performance, mais ne doit jamais être un créateur de dépendance envers le coach. Parce que ce qu'on veut, c'est d'activer l'intelligence entrepreneuriale de nos clients pour ensuite leur permettre de mieux comprendre et appliquer les connaissances, savoir-faire et savoir-être de façon cohérente et alignée pour qu'ils puissent fluidifier leurs propres résultats sur le long terme. All right. Je ne sais pas si vous avez des réflexions ou des choses que vous aimeriez ajouter à cela. Je serais vraiment curieuse de vous lire. Je vais peut-être partir un thread aussi pour qu'on puisse en discuter. Sinon, ben, on va se voir dans le prochain et dernier live que j'ai préparé dans cette série où on va parler d'empowerment entrepreneurial, donc les aptitudes clés à développer avec ou sans son coach. Sur ce, ben, on se dit à la prochaine pour notre prochaine conversation.